soir, organisation des élections locales, municipales et urbaines en RDC, le député national de l'opposition Martin Fayoulou estime que le moment et le contexte ne sont pas favorables pour l'organisation de ces scrutins. Comme raison, Martin Fayoulou évoque notamment les contraintes budgétaires et les risques d'explosion des conflits ethniques. Il l'a fait savoir dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires. Comment analyser cette déclaration? C'est notre débat de ce soir. Pour en parler, nous recevons évidemment sur ce plateau l'honorable Martin Fayoulou, député national de l'opposition et coordonnateur de la plateforme Force Acquise au Changement FAC. Il est président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement et SIDE. Honorable Fayoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Emmanuel Ramazan Chadari, député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Honorable Chadari, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Jérôme Bonsou, il est président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Il est aussi coordonnateur de la plateforme AETA, Agir pour des élections transparentes et apaisées. Jérôme Bonsou, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le moment et le contexte ne sont pas favorables pour l'organisation des élections locales, municipales et urbaines en RDC. C'est Martin Fayoulou, député national de l'opposition, qui le dit dans une lettre adressée aux parlementaires sur l'organisation de ces scrutins qu'envisage la CENI. Il évoque, chiffres à l'appui, des contraintes budgétaires. Également, le risque d'explosion des conflits ethniques. Kéline Couté revient sur les grandes lignes de cette correspondance.
Dans sa lettre, Martin Fayoulou estime que la question des élections locales doit être résolue par le gouvernement, qui sera issu des élections de 2016. Il pense qu'il faut se poser la question de savoir si l'État congolais, avec un budget de 8 milliards de dollars cette année, dispose des moyens matériels et financiers conséquents pour supporter des dépenses supplémentaires liées à ces élections. Parmi les autres questions qu'il se pose, il y a entre autres celle de savoir si l'état des fragilités des institutions pourrait supporter certains discours séparatistes actuels visiblement impunis et quel est l'objectif poursuivi en organisant les élections locales. Martin Fayoulou se demande aussi si, avec la situation actuelle de la RDC, les conseillers municipaux et autres chefferies peuvent apporter un plus dans la consolidation de la démocratie. Pour cet élu de Kinshasa, il faut commencer par s'interroger sur l'efficacité des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux et même de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il estime qu'il faut d'abord consolider ces institutions pour les rendre efficaces avant de se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas les résultats. Il prie les parlementaires de réfléchir sur la feuille des routes de la CENI qui risque de conduire le pays dans l'abîme, selon ses propres termes.
Merci Kevin Couté. Toujours sur les chapitres des élections municipales, locales et urbaines, Julien Paluku, autorité morale du Burek, parti de la majorité présidentielle, remet aussi en cause l'organisation de ces scrutins. Dans une déclaration publiée la semaine dernière sur son site internet, à l'occasion du deuxième anniversaire de son parti, Julien Paluku évoque entre autres les contraintes budgétaires. Il pense qu'il faut plutôt organiser les élections seulement au niveau urbain. On écoute Julien Paluku, autorité morale du Burek, au téléphone de Samuel Kachak.
Dans le contexte actuel d'un budget de 7 milliards pour un pays 80 fois plus grand que la Belgique, il est très très difficile de faire fonctionner la décentralisation. Parce que tout calcul fait, la République démocratique du Congo va avoir plus de 2000 entités territoriales décentralisées. Et on a estimé que, au regard de ce système qui existe de rétrocession, on risque d'avoir une entité fonctionner avec moins de 1000 dollars par mois. Et imaginez-vous une entité qui a 1000 dollars et qui a des organes locaux comme des exécutifs locaux, des assemblées locales, il sera très difficile de faire fonctionner cela. De deux, il y a beaucoup de conflits qui sont nés à la suite des élections de 2006 lorsqu'on a vu les assemblées et les exécutifs locaux, comment ils se sont comportés. Et donc, je crois qu'il est très prudent d'éviter que les conflits qu'on a observés au niveau des institutions provinciales ne puissent se répercuter sur les organes locaux au risque d'avoir une confusion généralisée sur l'ensemble du pays si les systèmes juridiques restent les mêmes. Pour nous, au niveau de notre parti, les Burek, nous estimons qu'il faut consolider les institutions qui existent d'abord et s'il faut organiser des élections, il faut le faire seulement au niveau urbain pour les consolider autour de 10 à 15 ans, le temps de permettre à la population de se les approprier et de devoir évaluer si réellement on peut passer à la phase suivante, à savoir les élections communales, les élections locales. Sinon, la grande crainte, c'est que l'insuffisance des moyens au niveau des entités locales risque d'éparpiller ces moyens seulement au niveau des fonctionnements au lieu de répondre à un besoin de développement dans la République.
Voilà. Honorable Martin Fayoulou, vous êtes député national de l'opposition et coordonnateur de la plateforme Force Acquise au Changement FAC. Vous êtes également président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement SID. Vous êtes l'auteur de la lettre adressée aux parlementaires. De façon générale, d'abord, merci d'avoir accepté de participer à cette émission malgré le méchant rhume qui vous dérange. Honorable, de façon générale, quel sens donnez-vous à cette lettre avant qu'on entre dans les détails?
Mais l'essence donnée à cette lettre, c'est simplement susciter le sens des responsabilités des parlementaires, de ne pas se lancer dans quelque chose dont on sait d'avance que ça ne va pas marcher. C'est de dire aux parlementaires que le 11 janvier 2011, ils ont mis les pays dans une situation inextricable. Et aujourd'hui, il faut que ces parlementaires-là prennent leurs responsabilités pour ne pas conduire le pays dans l'abîme, comme j'ai dit. On ne peut pas comprendre qu'un pays avec un budget de 8 milliards de dollars, et nous sommes en train d'examiner le budget, le pays a des difficultés pour trouver des moyens. 17% seulement du budget consacré à l'éducation nationale. On n'arrive pas à payer les fonctionnaires. On n'arrive pas, même le bourgmestre qui sont dans la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à les payer. Et demain, vous allez organiser les élections comment? Combien ça va coûter l'organisation de ces élections qui vont produire 23 700 élus? Vous allez trouver les moyens où pour organiser? Si d'aventure vous trouvez les moyens parce qu'il y a des aides extérieures et consorts, mais demain, pour payer ces gens-là, des élus qui vont vouloir être payés, et si jamais ça ne se fait pas, quelle responsabilité que le pays va porter? Donc ça, pour moi, c'est une question très importante.
Et puisque vous êtes déjà au niveau des contraintes budgétaires, dans les petits calculs que vous avez fait dans votre correspondance, vous dites que si on devrait payer au minimum ces élus, ces 23 700 élus, si chacun devrait percevoir un minimum de 1000 dollars, ça ferait plus de 285 millions de dollars par an.
Non, pas si chacun devait percevoir, non. Si l'État devait dépenser sur chaque personne.
Sur chaque personne.
Quand vous, ils peuvent percevoir 200, 300, mais il y a des locaux que ces gens occupent. Il y a des dépenses de santé, il y a d'autres dépenses de fonctionnement. Si toutes ces dépenses, j'ai regardé aujourd'hui combien touche, devait toucher un bourgmestre, des communes. Et j'ai regardé, il y a des gens pour qui l'État dépensera plus, d'autres encore moins, mais si la moyenne se situe à 1000 dollars, ça faisait combien? 285 millions de dollars par an. Est-ce que les gouvernements congolais a ces moyens? C'est la question.
Et donc, on comprend déjà que sur le plan budgétaire, vous pensez que ça va être difficile. Mais vous parlez aussi, vous craignez aussi l'explosion des conflits. Comment vous expliquez ça?
Écoutez, tout le monde le sait, aujourd'hui, il y a un plan machiavélique sur la balkanisation ou l'implosion de notre pays. Je vous renvoie au livre donc conduit par le professeur Mokoka et son collègue. Donc, ce livre dit ceci, le projet de balkanisation et d'implosion, ou la RDC face au projet de balkanisation et d'implosion. Donc le professeur Kankwenda et Mukoka ont dirigé ces bouquins, et aujourd'hui, on le voit très bien, ce n'est un secret pour personne, tout ce qui se passe à l'est de la République, tout ce qui se passe dans la partie orientale de la République. Alors, donc nous disons, voilà comme ils n'arrivent pas à balkaniser, il faut faire imploser les pays de l'intérieur. Donc on cherche l'implosion. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est que M. Kabila et les siens ont cherché par tous les moyens pour réviser la Constitution. Rappelez-vous les livres de professeur Evariste Boshab, la RDC, donc entre l'inanition et la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Donc nous nous sommes levés comme un seul homme contre cette idée. Aujourd'hui on ne peut plus. Alors voilà, les gens veulent que Kabila fasse deux mandats en un. Ils veulent aller plus loin. Donc, organiser les élections locales qui seront une cacophonie terrible, et avec cette cacophonie, et on dira, et voilà, on ne peut pas organiser l'élection présidentielle en 2016. Alors, avec tout ça, je demande aux parlementaires de réfléchir, et de réfléchir sérieusement, sans passion, pour le bonheur de ce pays.
Nous allons prendre pour vous, honorable Martin Fayoulou, cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Jérémy Kihambu depuis Goma au Nord Kivu. En fait de compte, que veut l'opposition congolaise? Celle qui criait il y a peu que les élections aient vite lieu, que la constitution était violée. Maintenant que le gouvernement de la coalition nationale traîne, comme avait prôné le chef de l'État, les opposants ne savent pas comment se positionner. Ils attendent les gâteaux. Voilà qu'ils donnent des prétextes. Ne fustigez plus la violation de cette constitution un jour, car vous encouragez cette violation. Le peuple a besoin de voir son oncle ou une personne proche devenir un chef de localité. Avec courtoisie, Fayoulou nous distrait.
Qu'est-ce que vous lui répondez, honorable?
Mais écoutez, à celui qui distrait les gens, s'il veut voir son oncle devenir chef de je ne sais quoi, non, la violation de la Constitution, je vais lui rappeler. L'installation de nouvelles provinces, article 226 de la Constitution, ça n'a jamais été fait. L'institution de la Caisse des péréquations, article 181 de la Constitution, ça n'a jamais été fait. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces établie à 40%, article 175 alinéa 2 de la Constitution, violé. L'institution du Conseil économique et sociale, article 208, violé. Donc, c'est qu'on est en train d'appâter les gens en leur disant vous aurez de l'emploi. On veut créer de l'emploi. Mais ça, ce sont des emplois non marchands. Ce sont des emplois non producteurs.
Mais nous, par cette lettre honorable, avant que je ne donne la parole à l'honorable Chadari, l'opposition n'est-elle pas, vous particulièrement, n'êtes-vous pas là en train de chercher la chose et son contraire, comme dit Jérémy Kihambu, vous étiez parmi les premiers à réclamer
la télévision. Ce n'est pas un débat opposition et tout ça. C'est stérile, ça. Qu'est-ce que l'opposition vient faire là? Qu'est-ce que l'opposition a réclamé ces élections là? Non. Est-ce que le gouverneur Paluku est de l'opposition? J'ai fait un débat contre lui, contradictoire, avec lui la fois passée. Est-ce qu'il est de l'opposition? Ça, il faut avoir un sens aiguisé de l'État. Il n'y a pas de problème d'opposition ici. C'est lui qui veut amener ces débats. Il se trompe des débats.
Merci, honorable Fayoulou. Honorable Emmanuel Ramazani Chadari, vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez à la lettre de l'honorable Fayoulou? Vous avez suivi son argumentaire. En plus, il y a même le gouverneur Julien Paluku là qui intervient comme autorité morale du Burek, qui va presque dans le même sens.
Merci beaucoup pour la parole. Et je souhaite à tous les auditeurs bonne année 2014, parce que c'est la première fois que je passe pour cette année à la radio Okapi, spécialement à l'émission Dialogue Intercongolais. La question qui est posée par notre collègue Martin m'étonne.
Pourquoi?
M'étonne énormément. Et sa lettre n'a pas de responsabilité. À mon sens, c'est une lettre irresponsable.
Ce n'est pas trop fort ces termes-là à l'égard d'un collègue?
Martin Fayoulou, c'est un collègue. Il est parlementaire. Il sait que le débat de la feuille de route, la CENI, va passer à l'Assemblée nationale. Il prend le devant, il écrit un document d'une page, et il brandit un peu partout pour montrer qu'il y réfléchit et son parti est omniprésent. Donc je crois qu'il devrait d'abord poser cette question à l'Assemblée nationale dans un débat démocratique. Ça, c'est la première précision. Et je vois toute la publicité qui en est faite par la radio. On lit toute sa lettre, on donne des motivations. Et apparemment, pour moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est caché. Il dit que on ne peut pas organiser les élections. D'ailleurs, je salue l'auditeur qui nous a suivi de Goma, qui a donné son point de vue, que je partage. Il ne faut pas dire que les élections seront organisées pour le moment. C'est inopportun, sous prétexte de déficit budgétaire ou des conflits ethniques. Non. Je rappelle aux collègues que les élections locales et municipales ont déjà été organisées dans ce pays, avec un budget de moins d'un milliard sous le régime Mobutu. Élections locales. En 1982, on a élu démocratiquement cette fois-ci les conseillers des zones, les conseillers de chefferie et les conseillers des secteurs, et on a même élu les bourgmestres au second degré. On les appelait commissaires des zones urbains, ainsi de suite. Donc, quand il parle de budget, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Et lorsqu'il parle des conflits interethniques, mais ces conflits, on les a observés, même quand on organisait les élections provinciales, élections législatives et élections présidentielles. Il y avait des conflits que l'État, le gouvernement, a tenté un soir un peu pour tempérer. Nous, en tant qu'élite politique, nous devons réfléchir sur ce questionnement-là. Est-ce que ces élections vont exacerber les tensions interethniques entre Congolais? Qu'est-ce que nous faisons pour les contrecarrer? Et il ne faut pas seulement dire, oh, il ne faudrait pas qu'il y ait élection parce qu'on n'a pas d'argent, les enseignants ne sont pas payés et les fonctionnaires ne sont pas payés. Ils sont payés, mais pas suffisamment payés. Il doit corriger ça. Tout le monde est payé avant le 30. Mais ce n'est pas suffisant ce qu'on leur donne. Et je reviens à tout ce qu'il a raconté là-bas. On a fait les élections avec moins d'un milliard de dollars. Et tout ce que nous percevons, nous députés, comme émoluments. Lui aussi, les députés. On peut revoir ces chiffres. C'est une proposition. Tout ce que les sénateurs perçoivent comme émolument. On peut percevoir un tout petit peu là-dedans. Les ministres, les frais d'émission qu'on donne à tous ces gens au niveau central. Pourquoi ne pas donner ça au niveau de l'intérieur, au niveau de la base? La démocratie, le développement, c'est d'abord ces entités territoriales décentralisées. Lui, il vit ici à Kinshasa. Moi, j'ai été élu deux fois dans un territoire de Kabambare, au Maniema. Nous avons besoin des responsables élus pour diriger ces entités-là. Et ils doivent répondre de leur gestion au niveau du peuple. J'étais une fois dans une émission, dans une télévision périphérique, les gens de l'opposition, comme d'habitude, ils disent, vous avez nommé les bourgmestres, vous avez nommé les chefs de secteur, il faut que ces gens soient élus. Lui et moi avons été à la CNS. Et nous avons décidé qu'on commence par les élections locales. Il faut que ces gens soient élus.
Mais honorable, le gouverneur Julien Paluku, autorité...
Je vais en arriver.
Il réagissait presque dans le même sens. Qu'est-ce que vous lui dites?
Je vais en arriver parce que la même réponse que je donne à Martin, c'est la même réponse que je donne à Julien Paluku, qui est gouverneur aujourd'hui. Et je sais pourquoi il a donné ce point de vue. Il a dit qu'on a violé, on n'a pas violé, tout ça, la constitution, le conseil économique n'est pas là. Nous avons déjà une loi votée et promulguée. Il est député, il a oublié. La loi sur la péréquation, la loi est en discussion. Il est député, il a oublié. Cette loi a été même proposée par l'honorable Louman depuis le mandat passé. Je n'ai pas déjà encore du temps. Si on ne veut pas aller aux élections, c'est parce qu'une certaine opposition a peur. Pourquoi il propose 2016? Donc en 2016, on aura beaucoup d'argent. En 2016, on va éliminer tous les conflits ethniques. L'article 3 de la Constitution, pour terminer, dit ceci. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Quels sont les organes que la commune a ici?
Merci.
Ou bien les secteurs?
Merci honorable.
C'est un faux fuyant.
Votre collègue va vous répondre tout à l'heure. Jérôme Bonceau, vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELITE. Vous êtes aussi coordonnateur d'AETA, la plateforme AETA, Agir pour des élections transparentes et apaisées. Il faut dire qu'au niveau de l'AETA, vous avez aussi réfléchi sur la question et même vous avez publié un document à ce sujet, Jérôme Bonceau. Quelles sont vos analyses? Vous avez suivi les différentes interventions.
Merci Alain. Avant de répondre à votre question, je tiens à présenter mes voeux à mes deux honorables députés Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari, qui auront le privilège d'être au milieu d'eux et d'échanger avec les élus du peuple sur une question aussi importante. Mes vœux, je les présente aussi à la radio Okapi et à tous ses auditeurs. Cela étant, vous m'avez posé la question de répondre que ce débat qui est d'actualité.
Faut-il organiser ou pas
Faut-il organiser? Mais tout est parti des orientations du président de la République en date du 23 octobre devant le Parlement réuni en congrès. Quand le président a donné, au moins en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le post-électoral, 9 orientations ou recommandations, entre autres, il a demandé à ce que la CENI puisse présenter dans le meilleur délai un calendrier électoral poursuivant le processus électoral et aussi avec diligence l'organisation des élections locales, municipales, provinciales et sénatoriales. Le président, dans ses orientations, il a parlé aussi de l'installation progressive des nouvelles provinces et les transferts de leurs compétences. Il a parlé aussi de l'institution de suffrage universel indirect pour les élections provinciales en vue de réduire les coûts. Il a parlé aussi du recensement général. Ainsi de suite, il y a autant d'éléments que le président a parlé. Il y en a au nombre de 8 que nous, au niveau de notre plateforme de la société civile, nous avons fait une étude, une analyse technique pour donner le contenu technique à ces orientations du président de la République. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le débat, les avis étaient divergents. Les uns étaient pour l'organisation des élections locales avant 2016, les autres étaient pour les organiser après 2016. Et nous avons donné des argumentaires à chaque option levée. Oui, nous devons aller aux élections avant, nous devons organiser les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, de gouverneurs et vice-gouverneurs avant 2016. Quels sont les avantages? Nous avons démontré les avantages. Quels sont les inconvénients, les contraintes techniques et quels sont les risques et comment gérer ces risques? Et nous avons mis ça sur table. Mais je voulais répondre une chose. Pourquoi nous parlons aujourd'hui des élections locales? C'est parce qu'il y a eu un déficit de ces élections qui n'ont pas pu avoir lieu en 2006. Quand nous sommes sortis de l'accord, quand nous avons produit l'accord de Sand City de 2003 en Afrique du Sud, il était question qu'on commence par les élections locales. Ça n'a pas été fait en 2006. En 2011, même ça n'a pas été le cas. Il y a maintenant déficit de ces élections locales. Et parce que tout le monde a le souci, quand je vois Honorable Martin et Honorable Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani parler avec des points de vue divergents, c'est on a le souci de construire la démocratie participative au niveau de la base. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on peut les organiser? Quand? Maintenant, les élections locales ne relèvent pas du schéma classique des élections. Parce que on devait les organiser en 2006, je le répète, en 2011, on n'a pas organisé, mais on voulait l'organiser maintenant à une période qui n'est pas une période périodique. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 21, point 3 dit quoi? Ce point 3 dit ceci. L'autorité du pouvoir public est fondement, la volonté du pouvoir du peuple est le fondement de l'autorité politique publique et cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel direct, qui doivent avoir lieu périodiquement. Est-ce que périodiquement pour nous, pour notre législateur congolais, chaque 5 ans, on doit organiser les élections. Ça, c'est du moins périodique. Et maintenant, les élections locales, est-ce que nous pouvons les organiser aujourd'hui? Disons oui, mais on dit le problème budgétaire. Est-ce que quand il y a eu remise et reprise de la CENI sortant, les CENI entrant, est-ce qu'il y avait déjà un budget disponible pour faire les activités, les opérations liées au procès électoral? Il n'y avait rien. Est-ce qu'à celle-là, nous avons l'argent dans cette zone? Oh, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'on peut rester sans qu'il y ait des élections au niveau local? Nous disons, les uns disent, non, on ne doit pas rester comme ça. Alors, et maintenant, le débat. Oui, allez-y.
Alors, puisque vous avez mené une étude pour et contre avant 2016, après 2016, pour l'organisation de ces élections, quels sont les avantages et les contraintes brièvement?
Les avantages, c'est avoir une démocratie solide à la base. Nous devons porter la décentralisation. Quand monsieur le gouverneur parle de la décentralisation est constitutionnelle, article 2 de la Constitution, de cette exigence, nous devons consolider cette décentralisation au niveau de la base pour que les élus puissent qui seront là pour se reconnaître et la population pour se reconnaître. L'autre, le problème qui empêche les quoi, c'est les deux filles. Parce qu'aujourd'hui, on va organiser les élections locales. La CENI et le Parlement peuvent dire ce recensement, ces organisations, le recensement qui a été dit, et au niveau des concertations, et au niveau de la préparation des élections, n'est plus un préalable pour l'organisation des élections. Maintenant, le problème se pose. À quel niveau nous pouvons aller aux élections? On doit recourir au fichier électoral. Mais c'est là où il y a un défi, cher ami. Parce que, est-ce que nous serons en mesure de répondre au défi des traitements des données électorales? Parce qu'il suffit qu'il y ait un fichier électoral actualisé, intègre, consolidé et fiable. Mais les élections de 2006, les élections de 2011, nous n'avons pas eu d'archives. Il n'y a pas eu de données fiables qui puissent nous permettre d'actualiser le fichier. Or, nous serons obligés de recommencer le fichier.
Mais là, c'est si on commençait les élections avant 2016. Si on organisait les élections avant 2016.
Si on organisait les élections avant 2016, nous serons confrontés à ces
éléments que vous avez évoqués. Je vous en prie, je vous redonne la parole tout à l'heure, Jérôme Bonsoir, le temps de faire réagir l'honorable Fayoulou. Vous avez suivi Jérôme Bonsoir, votre collègue l'honorable Chadari. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Mais je suis en train de tomber à la renverse en écoutant la société civile ici. Monsieur Bonsoir dit que c'est Monsieur Kabila qui a demandé suite à sa demande. Donc, suite à sa demande, on va aller élire les députés provinciaux au second degré. Il souscrit à ça. On va faire tout ce que Monsieur Kabila a demandé. Mais écoutez, ça c'est malheureux. J'ai pas à commenter parce que je suis terrifié. Et je trouve ça très dangereux. Démocratie participative, qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez de démocratie solide à la base. Dites-moi, l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, prenons l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les gouvernements provinciaux de Kinshasa, c'est quoi ça? Démocratie à la base? Aujourd'hui, il y a un certain monsieur qui a demandé aux 207 de ne pas circuler. Qu'est-ce que ces gouvernements-là, cette assemblée provinciale, qu'est-ce qu'ils font? Je peux vous dire, sous le régime de Mobutu, oui, il y a eu ces élections, mais tout le monde, qu'est-ce que tout le monde dit de Mobutu aujourd'hui? Mobutu a pacifié le pays. Sous Mobutu, il n'y avait pas de tensions que nous avons aujourd'hui. On pouvait organiser les élections partout. On pouvait aller partout dans la République. On n'avait pas ces problèmes. Les institutions issues des élections 2006, alors, la nomenclature, la structuration, c'était de commencer avec les élections locales. Pourquoi on n'a pas commencé avec les locales? Pourquoi? Qu'on nous le dise aujourd'hui. Les responsables élus aujourd'hui, dans les provinces, dans les assemblées provinciales, quel est leur travail? Quelle est aujourd'hui l'efficacité des assemblées provinciales, qu'on me le dise? Quelle est aujourd'hui l'efficacité des gouvernements provinciaux? Je demande simplement qu'on consolide d'abord ces institutions avant d'aller ailleurs.
Et donc d'ici 2016, parce que vous proposez que les élections puissent avoir lieu après 2016, d'ici 2016, vous pensez qu'il est possible de consolider ces institutions?
Mais bien sûr, bien sûr.
Comment, par exemple?
Je vais répondre à mon collègue Chadari Ramazani quand il dit réduire les indemnités. Oui, c'est bien de venir faire la démagogie ici, mais faut qu'on aille à l'Assemblée nationale. Faut poser cette question pour réduire. Je suis le premier à demander, allons-y, réduisons les assemblées, comme a dit les indemnités, et même pas les indemnités seulement, les dessous des tables, ceux qui touchent les dessous des tables dans cette assemblée-là, qu'on le réduise et qu'on fasse un audit de l'assemblée. J'ai demandé, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale. Alors, monsieur allez faire un audit pour savoir ce qui se passe et avoir le résultat réel pour faire des économies et, comme a dit, transférer les reliquats ailleurs. Nous sommes d'accord.
Et honorable, quel serait l'avantage, vous avez dit dans votre lettre, que la question des élections locales doit être résolue par le gouvernement qui sera issu des élections de 2016? Quel serait l'avantage?
Je voulais revenir à ça parce que M. Chadari a dit que non, ou Bosso, je ne veux pas de ces élections. J'ai dit non. Nous sommes ici dans une situation de crise, vous savez, la crise de légitimité que nous crions depuis. Il faut un gouvernement responsable qui puisse étudier cette question. Jérôme Bosseau parle du fichier électoral. Est-ce qu'on a audité les fichiers électoraux? Nous savons ce qu'il y a dans ces fichiers électoraux. Les élections de 2011, vous avez vu ici à Kinshasa, il y a eu plus d'un million de personnes qui n'ont pas trouvé leur nom dans les listes, qui sont partis, qui n'ont pas voté. Donc, est-ce que vous allez faire l'audit du fichier électoral? Vous allez assainir ces fichiers quand? Le problème aujourd'hui, concentrons-nous dans l'audit du fichier. Terminons le cycle qui a commencé le 28 novembre 2011, c'est-à-dire on a fait l'élection présidentielle, on a fait les élections législatives nationales, il faut faire les élections provinciales et les sénatoriales. Et le gouvernement qui va venir, responsable, qui va pacifier le pays, qui va avoir certaines urgences, pourra s'atteler à ces élections locales. Et il verra, nous n'avons pas vocation à tout faire.
Merci, honorable. Honorable Chadari, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, en province orientale.
Et Pichu Simangaloukousa de Kisangani, province orientale. La priorité pour la RDC n'est pas d'abord d'organiser les élections locales, municipales et sénatoriales, mais plutôt de voter d'abord des lois réduisant les mandats des conseillers communaux, députés provinciaux et sénateurs à 2 ans, en vue d'éviter de favoriser une bonne concordance du cycle électoral en évitant la confusion des différentes législatures.
En d'autres termes, honorable, ne faudrait-il pas arriver finalement à normaliser le cycle électoral en RDC?
Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. Lui, il parle des priorités. Nous, on n'est pas venus ici parler des priorités. Mais on nous a posé la question de l'opportunité de l'organisation locale, municipale et urbaine. La lettre de notre collègue, l'opportunité. Il a posé la question budgétaire, la question des conflits ethniques. Et nous avons dit non. En 2016, il y aura quel gouvernement? Ce gouvernement ici, on dit qu'il n'est pas responsable. Ça m'étonne. Parce qu'au moins, un élu de Kinshasa, il voit les résultats. Même s'il y a beaucoup de choses à faire à Kinshasa, on voit ce qui se fait ici à Kinshasa, avec le gouvernement Kabila et son premier ministre Matata et tous les autres. Donc, je crois que il ne faut pas demander quelque chose et son contraire. On a demandé plus de démocratie. Et la véritable démocratie, nous insistons ici, c'est à la base. Cher ami, vous imaginez, depuis 2006, on ne sera qu'en train d'organiser les élections présidentielles et législatives nationales. Et une fois les élections provinciales. Et chaque fois, quand on veut organiser ces élections, on va à la base demander seulement qu'on élise les députés et qu'on élise les chefs de l'État, les présidents de la République. Et on ne veut pas qu'on élise le premier responsable des entités dans lesquelles nous vivons, les communes, les secteurs et les chefferies. Pourquoi? 10 ans après, on dit non, il faut laisser comme ça. Mais la gestion du pays, c'est quoi? C'est où? La base, c'est où? C'est là-bas. Même ici à Kinshasa, la base, c'est les quartiers et les communes. Est-ce que lui, mon collègue, il est content vraiment qu'il y ait des bourgmestres toujours nommés? Si vous avez un frère, comme on me l'a dit la fois passée, si vous avez un frère qui est au pouvoir, vous serez nommé. Non, il y a des gens qui remplissent les critères, il y a des gens compétents à la base, il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui peuvent booster le développement de l'avant au niveau des secteurs et des chefferies. Pourquoi ne pas prendre ces gens-là par la voie démocratique qu'est les élections, par exemple? Pourquoi? Mais est-ce que l'opposition trouve que elle ne pourra pas engager suffisamment de suffrages si on a ces élections maintenant? On attend la paix 2016. Ça m'étonne. Je crois qu'ils ont peur pour rien.
Mais l'honorable Fayoulou n'a-t-il pas raison quand il dit qu'il faudrait, par exemple, consolider d'abord les institutions actuelles?
Il a raison. Je reconnais au niveau des provinces, les institutions provinciales n'ont pas fonctionné comme il se doit. Au même moment que nous devons consolider ce qui s'est passé, ce qui se passe en province, profitons de l'expérience que nous avons pu dégager au niveau des provinces pour les mettre en application au niveau des secteurs et des chefferies. Mon cher, la province, c'est une institution, c'est un organe médiane. Le fonctionnement, le développement, c'est à la base. Donc voilà un peu ma réponse. Je crois qu'il faut, j'insiste, il faut organiser les élections cette année, au mois de novembre ou décembre. Et l'argent est là. Et je confirme que je vais parler au Parlement. Je vais parler à mon groupe parlementaire qu'il faut, s'il y a un problème de crédit budgétaire, il faut qu'on touche à nos émoluments. Je le dirai.
Alors, l'honorable Fayoulou, dans sa lettre, il dit, je le cite, « Il ne suffit pas de demander aux citoyens de voter à n'importe quel prix pour décréter la démocratie. La démocratie n'est pas une action instantanée, mais un processus qui nécessite la volonté, la discipline et le savoir-faire. »
Non, les gens là-bas sont suffisamment préparés. Ils sont, les cycles de la démocratie a commencé depuis la CNS. La société civile ici a enseigné les gens à la base depuis très longtemps. La population congolaise au niveau des secteurs et des chefferies et des groupements, elle est déjà mûre. Autre discours, ça sera un discours démagogique.
Jérôme Bonso, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Vienne en Autriche.
Franck Mbonié, à partir de Vienne en Autriche, il y a des séries de difficultés auxquelles la République démocratique du Congo est butée depuis la mise en application de son actuelle constitution. D'abord, la manière dont les futures provinces sont découpées et seront représentées donne à penser. Des séries de questions restent ouvertes jusqu'à ce jour. La première question, c'est que faire de tous ces articles dans notre constitution ayant trait à la décentralisation? Est-ce vraiment l'argent qui manque pour parachever ce processus électoral ou les vraies raisons seraient ailleurs? Y a-t-il des équilibres au niveau des institutions étatiques? Nous fonctionnons avec deux chambres au Parlement, dont l'une en ordre avec toutes les normes constitutionnelles et l'autre avec des assemblées provinciales avec des mandats déjà expirés. Et tout ceci mis ensemble ne peut qu'engendrer des dysfonctionnements sérieux et manifestes au niveau des chaînes de commandement.
Qu'est-ce que vous lui répondez, Jérôme Bonso?
Merci Alain. Avant de répondre à mon autre compatriote qui habite Autriche, j'ai dit à Honorable Martin qu'il m'a dit que je fais l'étude suite à la demande du président Kabila. Non. Et je souscris à cela. Non. Nous avons fait une étude de façon objective. De cette étude, nous avons produit deux scénarios. Le scénario d'aller aux élections avant 2016 et après 2016. Et c'est pour son information, je donne les statistiques que nous avons dégagées de cette étude. Les élections précédentes, les députations nationales et présidentielles, nous avons eu 63 865 bureaux de vote et bureaux de dépouillement, 255 460 listes électorales imprimées, 127 770 affichages, 11 611 sites de vote, 16 948 centres de vote.
Alors, sans maintenant, se perdre dans les chiffres, non, qu'est-ce que vous voulez dire?
Maintenant, dans les élections locales, nous aurons à peu près 8000 groupements. Et les groupements auront le rôle de centre de compilation de résultats. À ce moment-là, nous avons dit, ceux qui tiennent à ce que les élections locales aient lieu, on aura l'avantage de supprimer les centres locaux de compilation des résultats pour que les résultats puissent être transmis à temps réel aux directions centrales. Et ça va nous coûter de l'argent. Si, pour les 169 sites circonscriptions électorales, pour les députations nationales et provinciales, ça donne tel chiffre, mais avec les élections locales, est-ce que nous serons à mesure, c'est là où je reviens sur le problème du budget, est-ce que nous serons à mesure, ça c'est l'étude qui dit la possibilité de ceux-là qui ont défendu que les élections n'aient pas lieu en 2016. Mais le problème pour nous, c'est quoi? Avec tout ce qui se passe, nous avons un grand problème en ce qui concerne le processus électoral. C'est la crédibilisation même du procès électoral. La reconstruction de la confiance de la population et donner une nouvelle perception de la population congolaise dans les élections. Et l'efficacité du pouvoir organisateur des élections. Voilà les éléments qui devaient précéder les opérations que nous voulons faire. Mais nous, en tant que société civile, nous ne souscrivons à aucune option. Mais nous allons souscrire à l'option selon laquelle où on va nous présenter un calendrier électoral cohérent, clair, précis et détaillé, qui tient compte, qui respecte aussi la constitution de la République. Parce que dans l'acheminement, quand le président de la République parle du suffrage universel indirect, là on voit qu'il y a des implications constitutionnelles. On serait obligé de retoucher l'article 197 de la constitution, parce que cet article parle de suffrage universel direct en ce qui concerne la députation provinciale. Tout ça, ce sont des éléments qui font intégrer, quand on veut lever l'option, c'est aux parlementaires, Honorable Chadari et Honorable Martin Fayoul, qui vont lever l'option quand le CENI va descendre chez eux pour présenter. Et nous disons aussi un mot pour terminer. Ici, nous avons fait une analyse technique. En matière technique, il n'y a pas pour dire qui sont pour et qui sont contre, où est la majorité ou la minorité. Mais nous devons tous nous fier parce que nous savons que le cycle, les élections de 2006, nous avons échoué. 2011, nous avons échoué. Nous ne voulons pas qu'on puisse échouer encore les élections de 2016. C'est pourquoi nous voulons, comme issue de sortie, étant donné qu'il y a autant de préalables, étant donné que nous n'avons pas l'argent qui est disponible. La CENI sortant n'a pas laissé l'argent dans le compte de la CENI. Nous pouvons le coupler. Voilà la solution de la société civile. Le coupler en 2015 au lieu de le faire en 2014.
Alors, Jérôme Bonso, pour revenir à la préoccupation de Franck que nous avons suivi, qui nous a appelé de Vienne, finalement, il a, dans sa réaction, il semble évoquer trop de problèmes. Faut-il
simplement, ne faut-il pas simplement revoir le système électoral congolais, en un mot?
Oui, le système électoral, pourquoi on parle des réformes électorales? Les réformes électorales sont en cours. Ça a déjà commencé avec la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Il y aura une réforme législative lors de l'avancée de la loi électorale. On va y arriver. Parce que la démocratie est, le processus démocratique est dynamique. À un moment donné, nous sommes partis de tel système et il faut l'adapter au contexte du moment. Et pour nous, nous disons, la réforme doit être une réforme qui tient compte de la durabilité. C'est pas une réforme pour une réforme qui, après une législature, qu'on puisse encore y revenir.
Merci. Je rappelle, avant de vous donner la parole, honorable Fayoulou, qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Et donc, j'aurais besoin de réponses et des interventions courtes. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de la société civile de coupler finalement ces élections? Il y a le gouverneur Julien Paluku, lui qui proposait plutôt qu'on organise que simplement les élections urbaines et le reste, on verra après.
Non, écoutez, ce que Jérôme Bosso dit, c'est très dangereux parce que quand son étude là, les amis qui ont conduit l'étude avec lui, s'ils entendent comment il a présenté l'étude, je crois qu'ils ne seront pas contents de lui. Parce qu'il présente ici, les gens qui ont voulu que les élections aient lieu, les locales, avant, en 2014-2015. Mais on a donné des raisons pour lesquels il ne faudrait pas qu'il y ait ces élections. Il n'a pas avancé. Mais ce que je veux dire ici, il a parlé de la crédibilisation du processus électoral. C'est ça le plus important. Ce que vous avez fait, 2006, tricherie, et 2011, tricherie. Vous allez aller tricher dans les secteurs, dans les chefferies. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la bagarre rangée. Ça va donner la bagarre rangée. Et pourquoi? Parce que vous, monsieur, mon collègue Chadari, dit qu'on a peur, nous, d'aller aux élections. Personne n'a peur. Organisons les élections crédibles. C'est que nous disons, consolidons la démocratie avec les élections qu'on a déjà eues, provinciales, sénatoriales. Et puis, en 2016, quand on aura un gouvernement, on va discuter pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces élections-là.
Honorable Chadari, faut-il coupler les élections comme le propose la société civile?
Bon, je ne sais pas si c'est la proposition de Mbosso, mais la société civile, mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, il faut que cette année, au moins, il faut qu'on aille aux élections locales, municipales, urbaines et locales.
Peu importe les contraintes, les défis.
Non, il n'y a pas de contraintes. J'ai déjà évoqué ça. Comment vous dites ça? J'ai déjà évoqué qu'il n'y a pas de contraintes budgétaires, qu'il n'y aura pas de contraintes ethniques. Nous sommes l'élite politique, nous devons contourner ça. Ce qu'il faut demander, il faut qu'il y ait des élections crédibles. Il faut qu'il y ait des élections crédibles. Et nous, députés, lorsqu'on va nous proposer les codes électoraux, les projets, nous devons verrouiller ces codes électoraux pour éviter justement des questions qui ne vont pas crédibiliser les élections locales. Donc je suis d'accord pour qu'il y ait élection cette année locale, pour que nous puissions commencer à expérimenter la démocratie et le développement à partir de la base. Donc, c'est ça mon avis.
Et pour vous, en termes de conclusion, parce que l'émission va se terminer, quels sont les préalables pour crédibiliser finalement ces élections?
Les préalables, il faut choisir de meilleurs acteurs sur le terrain. Les gens qui vont gérer les bureaux de vote. Il faut choisir les gens crédibles, les gens instruits, les gens aguerris et les gens qui sont plus ou moins impartiaux. Ça, c'est la première possibilité, la première condition. Deuxièmement, je l'ai toujours dit, il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur les règles des jeux, l'opposition, la majorité et la société civile. Avec ça, et les moyens qui vont sortir, nous pourrons organiser des élections crédibles et la démocratie va commencer à marcher au niveau de la base. Pas seulement élections au niveau national, présidentiel, il faut aussi la base.
Jérôme Bonceau, les honorables députés ne sont pas d'accord qu'on puisse coupler les élections, en guise de conclusion.
Il faut le comprendre, les honorables députés sont politiques. Moi, je parle ici technique. Les techniques politiques, je crois que ça doit aller de pair. Mais quand le politique, nous avons organisé les élections politiques en 2011 et nous avons trouvé le résultat qui a été décrié par tout le monde. Mais du moins, je suis d'accord avec Honorable Ramazan qui dit qu'il faut se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord. Il faut créer un consensus politique et électoral pour que les élections se mettent d'accord sur la date de la faisabilité des élections locales. Parce que ce sont des élections non classiques. Ça ne respecte plus la périodicité des tenues des élections, étant donné que ni la CENI, ni l'Assemblée nationale, ni la société civile, soit ne peut prétendre fixer de façon unilatérale la date des élections locales. Et il faudrait qu'il y ait concertation entre les acteurs politiques, à l'instar de concertation nationale, parce qu'on allait dire que c'est l'Assemblée nationale ou bien le Parlement qui allait fixer la date des élections ou la CENI. On a vu les gens se mettre au niveau de concertation nationale. C'est pourquoi nous devons recourir à rechercher le consensus pour reconstruire la confiance de la population dans le processus électoral, pour Merci. Crédibiliser le reste du processus et Merci. Voir comment nous devons rendre l'efficacité du pouvoir organisateur des élections.
Honorable voilà. Fayoul, conclusion.
Le préalable, d'abord le départ de Malou Malou. Il n'est pas digne et capable de diriger la CENI. Et ensuite, il faut auditer les fichiers électoraux et commencer les élections provinciales, élections sénatoriales et en 2016, à tout prix, avoir les élections législatives pour le député et l'élection présidentielle. Ça, faire autre chose,
Merci.
C'est vouloir prolonger les Kabila.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je recevais l'honorable Martin Fayoulou, l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari et Jérôme Bonceau. Merci d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.